Le titre du message ce matin, c'est « La folie de nier la résurrection ». Et c'est basé sur un message d'un pasteur américain, Gary Hendricks. Donc, ça va comme cela. La fête de Pâques, le jour de la fête de Pâques, la commémoration de la fête de Pâques, a été en quelque sorte inventée par l'homme. Ce n'est pas commandé par Dieu dans la parole. Ainsi donc, c'est une invention de l'homme dans un effort de préserver la mémoire de cet événement qui est la pierre angulaire, du christianisme biblique, nommément appelé la résurrection de Jésus-Christ. D'un certain côté, il n'était pas nécessaire d'établir cette fête. Je dis cela parce que l'Église chrétienne ne faillira pas et n'oubliera pas. L'Église peut décliner, mais l'Église ne peut pas cesser. Elle ne peut pas disparaître. Elle ne peut pas cesser d'exister. C'est l'œuvre de Christ sur la terre. C'est lui qui bâtit son Église. Elle continuera jusqu'à son retour. Et aussi longtemps que l'Église existe, elle retracera, elle se ressourcera. Elle ressuscitera son existence à partir du Christ ressuscité. L'Église ne peut pas oublier. D'un autre côté, le monde païen, le monde non-croyant, oublie. Le monde païen, le monde non-croyant, a même déjà oublié la résurrection. Ainsi, Pâques est une bonne occasion. Elle procure l'opportunité pour l'Église de rappeler au monde le plus grand événement dans l'histoire du monde. Le seul événement qui donne l'espérance au monde. L'événement que le monde ne devrait jamais vouloir oublier. La mort est la réalité. Et on peut dire que la mort fait partie de notre vie. La mort est la réalité la plus menaçante de l'histoire humaine. À tout instant, littéralement, à tout instant, la mort pourrait arriver et vous ravir votre vie ou vous enlever de cette vie, vous enlever tout ce qui vous est familier et sécure pour vous dans ce monde. À tout instant, cela arrive à des milliers de personnes à travers le monde aujourd'hui, présentement, au moment présent où je parle. Lorsqu'ils se sont levés ce matin, ils n'avaient aucune idée qu'ils ne verraient jamais un autre coucher de soleil. Ils vont mourir. À tout instant, sans avertissement, cela peut arriver et bousculer votre monde en enlevant des gens que vous aimez, des gens dont vous comptez virtuellement indispensables pour votre bonheur. Mais la mort peut survenir comme elle survient souvent dans notre entourage. Et j'écoutais hier sur CTV, un jeune homme de 16 ans qui circulait, puis qu'à un moment donné, il y avait des amis avec lui, puis à un moment donné, faute d'expérience que les enquêteurs apparemment disent qu'il a sauté le parapet d'un pont, puis il est tombé dans l'eau. Lui est mort. Ses copains ont réussi à s'en sauver de peine et de misère, mais lui est décédé. Alors, quand il s'est levé hier matin, il ne savait pas qu'à un moment donné, il prendrait la route, puis que ça serait sa dernière journée. Et combien de cela nous voyons à tous les jours, des familles des fois qui s'en vont en voyage, puis à un moment donné, familles décimées. Alors, quand on pense à ceux qui restent, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux, toute la douleur, le chagrin que cela cause, et ça a un impact, la mort a un impact. Nous sommes à un battement de cœur de l'éternité. La mort est une menace horrible. C'est une menace qui est inévitable. Elle s'en vient pour vous. Elle s'en vient pour moi. Nous ne savons tout simplement pas quand. Mais comment se peut-il que quelqu'un peut ignorer, oublier ou nier la résurrection de Jésus-Christ? Le seul instant quand quelqu'un actuellement a défait la mort, pourquoi quelqu'un ne voudrait-il pas approfondir cela, l'explorer, en apprendre le plus qu'il peut? Ceci est particulièrement le cas puisque Jésus, avant sa mort et sa résurrection, a dit ceci dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, des versets 25 et 26. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et nous pouvons dire un « wow » à cela. Non seulement est-il vivant, il promet de donner la vie à quiconque croit. L'apôtre Paul était un témoin oculaire, visuel, spécial, du Christ ressuscité parce qu'il l'a rencontré personnellement sur le chemin de Damas. Et même de Christ dans sa gloire. Christ a autorisé Paul pour écrire ces mots dans Romains 10, 9. Il nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Mais sauvé de quoi? Sauvé de la mort. Sauvé du jugement de Dieu qui est derrière la mort. Tu auras la vie éternelle si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts et que tu te tournes vers lui et que tu en appelles et que tu l'appelles Seigneur, tu seras sauvé. Croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts inclut que tu es aussi ressuscité d'entre les morts. Vouloir oublier la résurrection, nier la résurrection ne fait simplement aucun sens. Mais c'est arrivé dans l'histoire du monde. Il y en a qui sont dans des églises et qui nient que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ce sont des Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne le croient pas. Mais pourquoi feraient-ils cela? La résurrection de Jésus-Christ est bien attestée dans l'histoire. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un mythe, c'est l'histoire. Et le christianisme est basé sur des faits historiques, des choses qui se sont réellement passées, qui sont arrivées dans un temps, dans un certain temps, marqué. Il a été vu, nous est-il dit dans la parole, par plus de 500 personnes à la fois après sa résurrection. Combien de témoins faut-il? Après sa résurrection, il a passé des heures avec ses apôtres. Et après avoir passé des heures avec Jésus ressuscité, ils ont dévoué le reste de leur vie à cette grande annonce. Jésus est vivant. En fait, la plupart, sinon tous ces hommes ont eu des morts atroces à cause de leur insistance du fait que Jésus est réellement vivant, du fait qu'ils ont témoigné et vécu de leur foi. Pourquoi ont-ils fait cela? Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que cela était vrai. Ils ont été en sa présence. Ils ont été les témoins oculaires. Mais comment pensez-vous que nous en sommes venus à être ici aujourd'hui, ce matin? Jésus, ressuscité, est encore à l'œuvre, déversant son Saint-Esprit, faisant des croyants par l'Évangile, construisant son Église. La propagation du christianisme sur toute la surface du globe, cela est un témoin évident que Jésus est vivant. Et la propagation du christianisme se fait actuellement même dans des pays qui sont réfractaires. On parle à l'Inde, la Chine, on parle dans les pays musulmans. C'est des choses souvent qu'on n'entend pas parler, mais effectivement, la parole de Dieu fait son chemin. Le royaume de Dieu s'agrandit là même. Dans ces milieux réfractaires. La résurrection est bien attestée, c'est un fait historique. C'est aussi la seule espérance de l'humanité d'échapper à la mort. Et non pas, on parle de la mort physique, non pas seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, la mort éternelle. La science a promis de vaincre la mort. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est même pas à l'horizon. Et cela n'arrivera pas parce que la mort n'est pas une partie naturelle de la vie. La mort est dans le monde en tant qu'un jugement actif. La mort est ici parce que Dieu est déterminé à punir le péché de l'homme. Le seul échappement de la mort est par une satisfaction parfaite, éternelle, rendue à la justice offensée de Dieu. Vous voyez, c'est ce pourquoi Jésus est venu. Il est le Fils de Dieu qui est devenu un homme, qui s'est incarné dans un corps humain, afin qu'il puisse aller à la croix et prendre la place des pécheurs, recevant par imputation leur culpabilité et prendre sur lui la punition juste de leur péché, la propitiation. La résurrection de Jésus est le témoignage de Dieu que Dieu est satisfait par la mort de son Fils, que la mort de son Fils a répondu à toutes les exigences, à toutes les demandes de la justice offensée de Dieu. Ainsi, Jésus est vivant et quiconque pour qui il est mort vivra. Pour qui le Père lui a donné des âmes et c'est pour eux qu'il est mort. Quiconque qui croit en lui vivra. Jésus-Christ est le seul qui a l'autorité de pardonner les péchés et de ressusciter les morts, et c'est ce qu'il a fait. C'est la seule espérance que nous avons. De nier la résurrection est de nier la seule possibilité que vous avez d'échapper à la colère de Dieu et de vivre éternellement. Donc, afin de démontrer la folie niant la résurrection, nous allons examiner les gens qui ont été les premiers, à le faire, les premiers qui ont été sur le spot, comme on pourrait dire. Les premiers qui, en pleine connaissance de cause, délibérément, ont nié la résurrection. Et nous allons le faire en trois parties. La première partie, qui est intitulée « Un souvenir remarquable ». Deuxièmement, une annonce alarmante. Et troisièmement, un endurcissement horrifiant. Donc, premier point, un souvenir remarquable. Tournez dans l'Évangile de Matthieu. Passage qu'on a lu ce matin, mais on va y retourner. Matthieu 27, nous allons lire les passages de chapitre 27, versets 62 à 66. Donc, Matthieu 27, 62 à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Je vais juste faire un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur qui est esprit et vie. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit ce matin pour que tu puisses nous aider, nous éclairer à comprendre ta parole, Seigneur, afin que nous puissions y demeurer fidèles, Seigneur, et la mettre en pratique dans nos vies. Nous te demandons par Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons réfléchir à 3 choses en développant ce point. Premièrement, les acteurs principaux dans l'histoire, comme il nous est mentionné au verset 62, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate. Pilate, c'était l'officier romain qui gouvernait sur la Judée en faveur de César. Les principaux joueurs ici étaient les principaux sacrificateurs, à prédominance des Sadducéens, des théologiens libéraux et il y avait les pharisiens. C'était des fondamentalistes, des zélotes, des patriotes zélés en Israël. Ces hommes étaient en fait les pasteurs, les anciens du peuple hébreu. Ils étaient responsables de maintenir parmi les Hébreux le souvenir des promesses de Dieu et de l'alliance, de l'ancienne alliance du peuple. Et la principale parmi ces promesses était la promesse du Messie, qui, au temps marqué, viendrait de Dieu, né de la Vierge, qui serait le serviteur souffrant de Jéhovah, de Yahweh, qui souffrirait et mourrait pour le peuple, portant leurs transgressions, leurs péchés, qui ne verrait pas la corruption, qui retournerait sur le sentier de la vie et ramenerait dans la présence de son Père dans laquelle il y a plénitude de joie. C'était une grande prophétie et une grande promesse d'un grand sauveur et d'une grande espérance. Et ces hommes, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, eux, ils étaient les gardiens. C'était leur privilège d'attendre, de surveiller pour la venue du Messie et de garder l'espérance du peuple vivante. Et on se rappellera, si vous rappelez, dans les évangiles, on se rappelle de Siméon qui était dans le temple et qui attendait la venue. Alors, ce principe-là, ce principe de base-là était là. Mais dans l'actualité, lorsque le Messie est venu après des centaines d'années d'attente, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se sont plutôt révoltés contre lui. Ils étaient les principaux objecteurs, les principaux protestataires du Messie, même si Jésus a accompli parfaitement la description que l'Ancien Testament donnait du Christ lorsqu'il est venu. Lorsque les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont refusé d'admettre que Jésus de Nazareth était en fait le Christ de Dieu, le oint de Dieu, parce que Christ, ça veut dire oint, envoyé, l'émissaire, celui qui avait été désigné, ils ont ridiculisé son enseignement. Ils ont tout essayé pour le prendre en erreur sur le plan théologique et éthique, mais ils ne purent pas car ils pouvaient dénicher leur piège. Il a parlé avec sagesse, avec puissance, du fait qu'ils ne pouvaient résister. Expliquer, mais là encore, ils ont refusé de se soumettre. Ce n'est pas seulement sa puissance qui a authentifié son message. Tous les miracles qu'il a performés. Il a changé l'eau en vin, on se rappellera. Il a pris quelques pains et quelques poissons et a nourri à une occasion 5000 personnes et dans une autre occasion 4000 personnes. Les gens venaient à lui avec toutes sortes de maladies incurables et il les a guéris par une parole. Il a donné la vue à un homme qui était aveugle. Des gens qui étaient boiteux ont été guéris. Il a ressuscité des morts à trois occasions des personnes. Il a pris des gens qui étaient morts et les a ramenés à la vie. Qu'est-ce que ça prend? Les principaux sacrificateurs et les pharisiens actuellement avaient l'audace de dire qu'il a fait ses œuvres par la puissance du diable, par Belzébul. Les gens ordinaires dans Israël ont commencé à être excités concernant Jésus, particulièrement lorsqu'il a ressuscité Lazare, et parmi le peuple, il y a eu un courant d'enthousiasme. Peut-être que c'est celui que nous attendons, se dirent-ils. À ce point, les souverains sacrificateurs ont paniqué et se sont consultés à savoir quoi faire parce qu'ils devaient le réduire au silence. Ainsi, ils ont concocté le plan, l'arrangement qui en a résulté à la crucifixion de la croix. Mais quel était leur intérêt? Quel était leur motif, leur propos? Les évidences étaient irrésistibles. Ses paroles, leur puissance, la vérité qui en ressort, sa sainteté. Ils ne pouvaient pas trouver aucune faute dans sa vie. Ses miracles, ses signes, les évidences étaient accablantes. Quel était donc leur intérêt? Tournez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, et écoutez leurs propres paroles. Cela va expliquer leur rejet. La scène se passe ici, quelque temps après la résurrection de Lazare, et il y eut un tumulte, au verset 47. L'Évangile de Jean, 11, 47. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Remarquez, ils n'ont pas dit « Ce sont des nuages de fumée. Il se joue des gens. » Eh bien, non. Mais ils ont plutôt dit « Il fait beaucoup de miracles. Qu'allons-nous faire ?» Le sens commun aurait pu dire, faisant tout cela, peut-être que c'est celui que nous attendions, peut-être que c'est le vrai. Ce serait bien d'aller à ses pieds et de lui demander d'avoir miséricorde de nous. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit au verset 48, « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. Quels étaient leurs intérêts? Leurs intérêts étaient qu'ils perdraient leur place, leur position, leur statut. Quelle était leur place, leur position? C'était une place, une position de prestige. Les gens les regardaient comme étant élevés. C'était une place de puissance. Ils étaient ceux qui dictaient la vie religieuse en Israël. C'était pas n'importe quoi, là. Ils avaient toute une responsabilité. Ils avaient un profil élevé. Ils avaient la prospérité. Ils étaient payés cher pour être les anciens en Israël. Quels étaient leurs intérêts? Ces gardiens de la vérité. La vérité leur était cachée. Ce n'était pas pour la vérité. La vérité, ce n'était pas leur intérêt. C'était attaché au fait de maintenir leur exaltation de dignité, leur profil élevé, leur prospérité matérielle. Ils voulaient s'accrocher à leur place, à leur pouvoir, à leur position, à leur standing. C'est pourquoi Jésus devait être crucifié. C'est pourquoi ils sont allés vers Pilate après la crucifixion. Mais avant que nous allions au point de leur question et de leur proposition à Pilate, nous allons nous attarder un moment sur Pilate même. Pilate n'était pas un juif, c'était un gentil, un païen, c'était un officier romain. Et l'Évangile démontre clairement qu'il savait que les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient fait de fausses accusations contre Jésus. Matthieu 27, 18 nous le confirme. Nous a dit, car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Ce passage nous dit que Pilate savait que c'était par jalousie. Jésus leur enlevait leur popularité. Les gens parleraient de lui et non pas d'eux. Ils devraient faire quelque chose et Pilate n'était pas dupe. Il savait que c'était par jalousie. Il savait aussi que Jésus était innocent. Mais qu'est-ce que Pilate fait maintenant? Il livre quand même Jésus pour être crucifié. Il le fait flageller, il le fait battre. Il savait qu'il était un homme innocent. Mais pourquoi est-ce que Pilate a fait cela? C'est très simple. Il voulait garder sa place, sa position. Il voulait plaire aux Juifs. Et il faut dire aussi que cela aurait été problématique quelque peu pour lui si les meneurs religieux avaient rapporté à César que son homme de main, gouvernant sur la Judée, ne faisait pas bien son travail, qu'il gouvernait à contre-courant avec la faveur du peuple. Ainsi, même s'il savait que Jésus était, qu'il était innocent, il l'a livré pour être crucifié, afin qu'il puisse s'accrocher à sa place, à sa position, à son statut, à sa popularité, à son argent. Les Juifs et Pilate étaient très différents. Ils avaient des personnalités différentes. Cependant, ils étaient très semblables, très similaires. Ils étaient similaires dans le sens qu'ils étaient tous conduits par l'orgueil, l'amour de la réputation, du standing, de la renommée, de la gloire, de l'argent, du prestige. La vérité et les principes étaient relayés au second plan pour faire place au prestige et à l'intérêt personnel. Êtes-vous comme cela, toujours en train de figurer l'angle, comment je peux acquérir une meilleure place pour moi-même, comment je peux être plus populaire, avoir plus d'honneur, faire plus d'argent? La vérité, la justice sont dispensables si vous pouvez figurer un angle pour améliorer votre position. Deuxièmement, considérons la requête que les principaux sacrificateurs et les pharisiens, mesquins et superficiels, ont portée à Pilate. Regardons, ils demandent à Pilate, ou plutôt, ils lui disent, c'est comme une demande, comment je dis, biaisée un peu. Dans Matthieu 27, Matthieu 27, verset 64, il nous est dit, « Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » C'est intéressant ici, ils ont crucifié Jésus-Christ et ils ont encore peur de lui. Si Jésus est ressuscité, qu'est-ce que les gens vont croire? Qu'il est ressuscité des morts? Waouh, ce serait la pire des choses. Ce serait pire que s'il ne l'était pas. Les gens seront emballés s'ils réalisent qu'il est ressuscité des morts. Pilate, s'il vous plaît, fais en quelque sorte qu'il ne puisse sortir de ce tombeau. Mets des gardes, des soldats à l'entrée. Nous craignons que les disciples, que ses disciples viennent et l'enlèvent. Il apparaît clairement qu'ils n'ont certainement pas payé beaucoup d'attention aux disciples ici. Les disciples n'étaient pas une menace pour personne parce qu'ils n'étaient pas là. Mais ces hommes étaient craintifs. Ils étaient craintifs que leur position était encore menacée. Pilate leur répond en leur rappelant qu'un détachement de soldats romains était déjà à Jérusalem pour garder la paix. Et ils avaient l'autorité sur eux. Prenez les soldats qui y sont déjà et faites ce que vous pouvez pour sécuriser le tombeau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont scellé la pierre de quelque façon. Si vous regardez souvent dans des programmes à TV, vous avez des scènes de crime et pour sécuriser l'endroit, on met des rubans jaunes, on enrubane le périmètre pour pas que les gens, les badauds, se rassemblent. Ils se rassemblent autour du cordon, mais pour pas qu'ils aillent voir la scène directement. Alors, ils ont sécurisé la scène d'une manière ou d'une autre. Ils ont mis le tombeau hors d'accès et ils ont placé des soldats romains à l'extérieur du tombeau. Maintenant, pourquoi avoir titré ce point un souvenir remarquable? C'est en raison de ce que l'on peut lire au verset 63. Ce sont les premiers mots que ces hommes religieux ont adressés à Pilate. Il nous est dit au verset 63, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Nous nous souvenons. » C'est étonnant, c'est renversant. Matthieu nous décrit 4 occasions dans lesquelles Jésus a dit qu'il ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Il dit cela clairement, distinctement, 4 fois. Mais dans chacune de ces occasions, cela implique des conversations privées avec ses propres disciples. C'était en catimini, comme on peut dire. Ce n'était pas un discours public. Mais comment ces hommes savaient-ils? Peut-être que Judas le traître leur a dit, c'est une possibilité. Ou peut-être que ces hommes ont compris plus que nous ne leur donnons crédit de leur compréhension. Parce que Jésus leur a donné une allusion, une indication, un scoop, comme on peut dire en allemand. Tournez dans Matthieu 12. Et ici, ça semble quelque peu obscur, mais peut-être qu'ils ont compris un petit peu plus qu'on pourrait penser. Matthieu 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » C'est plutôt obscur, mais peut-être qu'ils ont compris plus qu'on pourrait le penser. Nous ne savons pas comment ils en sont venus à cette connaissance. Comment ils ont appris cette prophétie, mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils s'en sont souvenus. Et c'est ce qu'on a lu dans le passage. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, « Après que je sois mort, je ressusciterai le 3e jour. » Il se souvenait. Mais qu'est-ce qui est si étonnant et renversant concernant cela? Aucun des disciples ne se rappelait. Les disciples ne s'en rappelaient pas. Et pourtant, les disciples avaient été avec Jésus pendant 3 ans. Jésus, seulement quelques heures avant la croix, leur a dit qu'il souffrirait et mourrait aux mains des principaux sacrificateurs et que le 3e jour, il ressusciterait des morts. Il leur avait dit quelques heures avant. On peut penser ce que Jésus aurait pensé. On peut penser de cette façon. Que les disciples seraient là, à l'extérieur du tombeau, et qu'ils attendraient, qu'ils seraient dans l'attente, puisqu'il a dit qu'ils ressusciteraient. tu voudrais être là puis attendre qu'il sorte. Mais ces pauvres disciples se cachaient, ils étaient écrasés. Quand Jésus est mort sur la croix, ils pensaient que leur vie était terminée. Ils lui avaient donné leur vie et maintenant il est mort. Et on se rappellera le passage des disciples d'Emmaüs lorsque Jésus se joint à eux, incognito, puis qu'il marche avec eux, puis qu'il entend leur conversation, puis que là, c'est le discours qu'ils ont. Que, est-ce que tu n'es donc pas au courant avec les événements qui sont arrivés à Jérusalem et tout cela? Il ne se souvenait pas qu'il avait dit qu'il vivrait encore, qu'il ressusciterait. Mais ses ennemis, eux, s'en souvenaient. Comment nous expliquons-nous pour les principaux sacrificateurs de se rappeler cette prophétie cruciale alors que les disciples du Seigneur l'ont oubliée? Comment vous expliquez-vous cela? Eh bien, si vous avez la réponse, si vous savez comment expliquer cela, vous devrez nous en faire part, nous en informer, parce que nous ne le comprenons pas. Mais nous savons ceci, s'étant rappelé que Jésus avait dit qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, cela fait que l'incrédulité de ses conducteurs juifs était encore plus inexcusable. Nous nous souvenons de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ressusciterait. Cet homme qui a parlé comme aucun homme n'avait jamais parlé, qui a opéré des miracles, a dit « Vous pouvez me tuer, mais je vivrai encore le troisième jour. » Et ils se sont souvenus. Un souvenir remarquable. Notre deuxième point, une annonce remarquable. On va tourner encore dans Matthieu 28 et on va commencer à lire au verset 1. C'est quand même des paroles qui sont quand même excitantes. Donc, Matthieu 28, on va lire jusqu'au verset 11. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précédera, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et on voit ici la remontrance que l'ange fait lorsqu'il dit « Je voici, je vous l'ai dit. » C'est une remontrance qu'il leur fait. Alors, si on poursuit... Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Alors les gardes étaient là et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, une portion de la garde romaine assignée pour sceller le tombeau et pour le surveiller, qui a vu et entendu ces choses remarquables, est venue devant les principaux sacrificateurs dans un état de traumatisme émotionnel. Ils étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vu. L'ange, le tremblement de terre, ces hommes avaient été traumatisés émotionnellement. Ils avaient été saisis. Et ils sont venus et ont rapporté ce qu'ils avaient expérimenté. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont dit, ça ne nous est pas mentionné. Mais Matthieu a écrit, ils annoncèrent tout ce qui était arrivé. Mais nous pouvons être certains qu'ils ont rapporté à tout le moins ces quatre choses. Il y eut un tremblement de terre rigoureux, la terre a été secouée. Le tremblement de terre a été causé par l'apparition d'un ange du ciel. Il semblait être un homme, mais il n'en était pas, parce que son aspect était comme l'éclair. Troisième point, la pierre était roulée. Quatrième point, Jésus n'était plus là. Alors, c'est certainement que ces quatre mentions-là faisaient partie de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils ont annoncé. Il n'y avait pas d'autres disciples, seulement quelques femmes, un ange et un tombeau vide. Et peut-être ont-ils rapporté ce qu'ils ont entendu dans leur état sidéré, alors que l'ange parlait aux femmes. Il n'est pas ici. Vous ne devriez pas le chercher ici parce qu'il vous a dit qu'il ressuscitera des morts. Il n'est pas ici parce qu'il est vivant. Vous le verrez en Galilée comme il vous l'a dit. C'est une annonce alarmante parce que cela aurait dû sonner l'alarme dans les esprits et les cœurs de ses principaux sacrificateurs et pharisiens, mesquins et superficiels, que cet homme qu'il craignait tant, qui a prêché comme Élie, mais avec plus de puissance, cet homme qui a guéri toutes sortes de maladies, toute personne qui est venue à lui, cet homme qui a ressuscité Lazare après qu'il fut mort depuis des jours, cet homme qu'ils ont essayé à l'extrême de détruire en le suspendant à la croix, cet homme tel que déclaré, témoigné par leurs propres gens, il n'est plus dans le tombeau. Que lui est-il arrivé? Un ange est venu. L'ange n'est pas venu pour sortir Jésus du tombeau. Ce n'est pas l'ange qui a sorti Jésus du tombeau. L'ange est venu pour rouler la pierre afin que les gens puissent entrer dans le tombeau et constater et voir de visu qu'il n'était pas là. Jésus n'avait pas besoin de l'aide de l'ange, il a ressuscité. Et maintenant, ces hommes ont entendu que nous avons fait de notre mieux pour le détruire. Il est vivant. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Peut-être qu'à ce moment-ci, il dirait, tout ce que nous faisons, il fait encore plus grand. Nous avons dit aux gens, il fait les œuvres d'en haut. Il ressuscite les morts. Nous l'avons cloué sur la croix. Nous l'avons vu mourir et nous nous en sommes réjouis et pensions que tout était terminé. Et maintenant, ces soldats romains arrivent et disent qu'il n'est plus dans le tombeau. Ils ont entendu un ange dire « Il est vivant ». Cela nous amène à notre troisième point, un endurcissement horrifiant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent, en ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ainsi, ils ont convoqué le Sanhédrin. Le conseil du Sanhédrin, c'était composé de 70 anciens qui étaient les leaders d'Israël, les meneurs, les principales têtes d'affiche qui conduisaient le peuple d'Israël. Et ils lui ont rapporté ce qu'ils ont vu. Ils se sont consultés. Ceci était était leur décision auguste. Une décision auguste, c'est une décision de majesté, une décision très, très importante. Ils donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, rappelez-vous ce que Pilate a fait aux soldats lorsque Pierre s'est évadé. Ils ont été tués. » C'est une offense criminelle pour un soldat romain de perdre un prisonnier, de s'assoupir dans sa fonction. Donc, il leur dit, « Nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. On va tout faire pour essayer de vous sortir de votre embarras, si le gouverneur l'apprend. » Comment pensez-vous qu'ils vont faire cela? Avec de l'argent. Au verset 15, les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Lorsque l'évangéliste Matthieu a écrit cela quelques 25 ans plus tard, ce bruit se colporte parmi la population juive, que le corps de Jésus a été volé par ses disciples. N'est-ce pas renversant, avec toutes ces évidences devant eux, évidence que Jésus est en effet le Fils de Dieu, il est le Seigneur de gloire, il est le Messie, il a conquis la mort, il est ressuscité des morts exactement comme il a dit qu'il ferait. Ce Jésus, très clairement, avec la puissance de sauver, et il doit avoir la puissance de détruire. Ainsi, avec toutes les évidences déployés clairement devant eux, leur délibération en résulte dans la décision de publier un mensonge, de fabriquer un mensonge et de corrompre les gardes au silence avec une assez forte somme d'argent. Nous pouvons nous poser la question, comment pouvaient-ils faire cela? Comment pouvaient-ils choisir de mentir, de rejeter la vérité? Comment pouvait-il dire que Jésus était un imposteur alors qu'il savait qu'il était ressuscité des morts? Leur rejet de la résurrection et de Jésus n'était pas dû à un manque d'évidence. Et si quiconque parmi vous dit « Eh bien, je ne crois pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'évidence suffisante », ceci est tout simplement faux. Les évidences étaient accablantes. Elles étaient écrasantes pour eux. Ce n'était pas dû à un manque d'évidence. Cela était dû à l'orgueil, à un amour du prestige, de la renommée, de la popularité et de l'argent. Comment pouviez-vous convaincre ces soldats qui avaient été étourdis, stupéfaits, traumatisés, par un ange, par les paroles de l'ange, comment pourriez-vous les convaincre de ne pas dire aux gens ce qui était réellement arrivé? Vous leur donnez assez d'argent. 30 pièces d'argent avaient été données à Judas pour trahir Jésus. Et ces gars-là, ces hommes-là, ces gardes, ont eu beaucoup plus que cela. Ils l'ont fait pour l'argent, pour la popularité, pour la position. Et comment des hommes bien peuvent-ils être si stupides, si bêtes? C'était une folie. C'était une décision insensée qui mène à la ruine. Ces hommes ont tout perdu, ont perdu toute possibilité d'une vie, qu'ils puissent ressusciter des morts. C'en était fait. toute possibilité de la vie éternelle, de la gloire, de l'immortalité. Ils ont tout abandonné pour sauver leur place, leur position. Mais cela n'a pas fonctionné non plus. On se rappellera que des années plus tard, vers l'an 70, les Romains sont venus et ont tout dévasté, Jérusalem, le temple. Ils ont tout détruit. Ils ont tout ramassé. Les principaux sacrificateurs, les meneurs, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur âme, leur vie, leurs idoles, leur prestige, leur argent, leur standing, leur position. Cela est écrit dans la Bible pour nous avertir tous des conséquences désastreuses de rejeter le Sauveur ressuscité. Christ est venu sur cette terre en ami. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner la vie. Il est venu pour donner son Saint-Esprit. Il est venu pour accorder le pardon des péchés. Il est venu pour vous donner une place dans la famille adoptive de Dieu. Qu'est-ce qui peut effrayer ceux qui nient la résurrection? Pourquoi ne croient-ils pas? Qu'est-ce qui les empêche de croire? Qu'est-ce que c'est? Un manque d'évidence. 500 témoins oculaires. Les disciples ont viré le monde à l'envers en continuant de faire croître l'Église. Est-ce que cela manque d'évidence? Qu'est-ce que c'est? La peur de perdre votre place dans la société. Vos amis vont se moquer de vous. Vous pouvez perdre une opportunité d'avoir une position plus élevée, faire plus d'argent, être plus populaire. Est-ce que c'est cela la raison? Ce sont des raisons quelque peu pauvres pour abandonner tout pour la vie éternelle. La seule personne qui ne doit pas être concernée concernant cela est une personne qui ne mourra pas. Si vous avez trouvé le bouton magique, vous savez que vous ne mourrez jamais. Mais il n'y a pas de bouton magique. Il n'existe pas. Et vous mourrez tous. Et vous avez besoin désespérément d'un sauveur. Vous avez besoin de quelqu'un qui a vaincu la mort. Et il n'y en a qu'un seul, et son nom est Jésus. Il y a encore de la place pour venir à lui. Ainsi, il fera pour vous ce qu'il a fait pour ceux qui ont mis leur confiance en lui et les a sauvés. Voici, je viens, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous louons ton nom, Seigneur, pour ta parole, qui est une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier, Seigneur. Merci de nous l'avoir donné, Seigneur. Merci de nous accorder ton esprit pour saisir et comprendre toute l'ampleur, toute la dimension, Seigneur, la portée de tes paroles, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à marcher d'une façon digne de toi, Seigneur, dans ce monde. Accorde-nous, Seigneur, d'être malléables dans les mains de l'Esprit, Seigneur, afin que nous puissions imiter notre Sauveur, Seigneur, lui ressembler le plus possible. Afin que l'Esprit puisse sanctifier nos vies, Seigneur, que nous puissions consacrer, Seigneur, nos vies, Seigneur, notre temps, pour ta gloire. Seigneur, nous nous en remettons à toi dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.